Minc-Norbecourt est un petit village paisible au cœur de la vallée de la Hême, près de Calais, à 25 km de la côte. Chantal et Éric Boin pratiquent une agriculture raisonnée et sont propriétaires d'une ferme qui fait également office de gîte rural, agréé gîte de France. Ils sont aussi producteurs d'huile de colza. Le centre social Arras Ouest, dans le cadre d'un atelier cuisine et diététique animé par la très dynamique Fousia, a proposé à ses bénévoles une visite de cette huilerie. En route donc pour Minc-Norbecourt, afin d'y retrouver l'agriculteur Éric Boin, qui explique tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'huile de colza, de la naissance de la graine à la transformation en huile.
Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue à Minc-Norbecourt, un petit village du canton d'Arbres. Donc vous êtes sur une exploitation agricole de polyculture et d'élevage. On a des vaches laitières, une trentaine de vaches laitières et un peu les cultures classiques de la région, céréales, c'est-à-dire blé, escourgeon, betterave sucrière, lin, fibre, colza, bien sûr, ce que vous allez connaître un peu mieux aujourd'hui, le maïs en silage pour les vaches laitières et les prairies pour les vaches laitières. Ici, c'est une exploitation familiale, de génération en génération, que je suis en société avec mon épouse, ça s'appelle une EARL. C'est l'EARL du Norbert, parce que c'est un peu le lieu dit ici de la ferme. On travaille ensemble, et encore les parents qui sont là en retraite semi-active, comme ça se passe un peu partout. Ici, on a mis en place cette petite activité, vous allez voir, c'est tout petit. C'est la transformation de notre colza produit sur la ferme, pour en faire une huile vierge, première pression à froid. Faire un peu ce qui se fait dans le sud avec les olives. C'était en début 2006 qu'on a démarré ça, donc il y a 4 ans. Donc le but recherché, c'était de faire un produit de qualité et valoriser une production de l'exploitation. Parce qu'aujourd'hui, quand on valorise nos produits d'exploitation via les coopératives et tout ça, on est très tributaire des prix, hein, vous voyez les yo-yo aujourd'hui dans les prix agricoles. Donc ça permet d'avoir une stabilité dans notre production, comme quelqu'un qui va transformer son lait en produits laitiers, beurre, etc. Ou celui qui va transformer sa viande en vente directe à la ferme, soit par caissette ou n'importe quoi. Nous, on a démarré ça à l'époque où on parlait beaucoup de colza biocarburant. Ça a été un gros handicap pour nous, parce que moi, je ne voulais pas du tout que ça parte dans ce sens-là. Quoi. Je savais bien que le colza biocarburant, c'était la plus grande bêtise qui pouvait exister sur la Terre. Nous, on est parti sur l'alimentaire. Alors, le colza, est-ce que tout le monde connaît un petit peu la culture de colza? Un petit peu. Alors, c'est les fleurs jaunes.
Hein.
C'est la première fleur de printemps. Mais c'est une culture que, bon, on la voit quand elle est jaune, parce que sinon, aujourd'hui, vous ne vous rendez pas compte. Mais elle est en terre 11 mois de l'année. C'est-à-dire qu'on va la semer fin août, début septembre, et on va la récolter fin juillet, début août, l'année suivante. Hein, aujourd'hui, les colzas, ils ont déjà à peu près 2 mois et demi en terre. Donc la culture, c'est quoi? C'est une culture oléagineuse. C'est l'hybridation à la bain, c'est l'hybridation d'un chou et d'une navette. C'est la même famille que les navets que vous mettez dans votre jardin. Les choux, tout ça, c'est la même famille. Hein, d'ailleurs, vous pouvez voir les petites graines, ça ressemble tout à fait à des graines de navet. C'est tout à fait identique. C'est la même famille aussi que la moutarde qu'on voit fleurir jaune en ce moment. Mais ça sert plutôt d'engrais vert. Hein, ça, c'est de l'engrais vert. Ce que vous voyez fleurir jaune en ce moment, c'est de la moutarde. Et c'est fait pour piéger les fameux nitrates qui s'en vont dans les nappes phréatiques. Si vous voulez, quand on implante un couvert comme ça, la plante, elle va capter la partie d'azote qui s'en va dans les nappes. Et que s'il n'y a pas de plante, et cet azote, il va filer dans ses nappes et il va polluer les nappes. Hein? Donc c'est pour ça que le colza, il a le même pouvoir qu'une moutarde. C'est-à-dire qu'il est implanté en ce moment. Donc il a un pouvoir d'aller capter tous ces azotes, là, ces nitrates, qui s'en vont dans les nappes. Et au contraire, ça va lui profiter. Après, il y en a beaucoup qui me disent, oui, mais le colza a pris les nitrates, donc nous, on va manger des nitrates. C'est tout à fait faux, parce que la plante, quand elle prend les nitrates, elle transforme les nitrates en matière organique. Hein, donc les nitrates sont transformés. Tandis qu'un nitrate qui s'en va dans la nappe, il n'y a personne pour le transformer. Là, vous vous retrouvez dans l'eau. Pour faire cette production, on est reparti sur des variétés assez anciennes. Hein, en comparaison, comme celui qui va faire un jus de pomme aujourd'hui, il ne va pas faire un jus de pomme avec des nouvelles variétés de pommes. Il va toujours repartir sur des variétés anciennes. Et nous, c'est pareil. Pour avoir une bonne saveur d'huile, on est reparti sur des variétés anciennes. Le principe, il est simple. C'est de récolter notre graine dans des bonnes conditions, c'est-à-dire dans des conditions sèches, pour pouvoir la stocker tout au long de l'année. Hein, contrairement à des olives, les olives, vous allez récolter, vous allez presser tout de suite. Ici, on récolte le colza et on va savoir le presser en attendant la récolte prochaine. Hein, pendant un an, je vais presser la même graine. Mais vous allez voir, c'est pressé tout très, très lentement, donc on a besoin de toute l'année pour presser. Après, c'est stocké ici et puis un petit peu à côté. Ça nous permet de mieux tracer, si vous voulez, le produit. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait un produit alimentaire, on est obligé de le tracer. Et si vous voulez, à chaque big bag, il correspond à un numéro qui correspond à un numéro de parcelle qu'on retrouve sur la bouteille qui correspond à un numéro de lot. Avant de le stocker, d'ailleurs, on va le trier hein, pour nettoyer bien la graine. Alors, j'ai pas bien expliqué tous les stades de la culture. Donc, j'avais bien dit semi, fin août, début septembre. Ici, vous avez la culture qui se développe à l'automne. Ici, en période hivernale, ben, elle va arrêter sa végétation. Tout ce qu'elle aura pris à l'automne, de ces fameux nitrates qu'on parlait tout à l'heure, c'est tout ce qu'elle aura pris comme force pour le printemps. C'est tout ce que nous, on aura de moins à lui apporter au printemps. Donc nous, tout ce qu'on recherche, c'est d'avoir un colza le plus développé possible avant l'hiver. Hein, on arrive à faire des colzas aujourd'hui bien développés, auxquels on ne va rien apporter aucun azote au printemps. Hein, il aura les réserves nécessaires pour se développer au printemps. Donc ici, la culture, elle est au stade repos. Et au début de printemps, c'est la culture qui va redémarrer le plus vite avec les premières sommes de température. C'est-à-dire que de mars à avril, c'est une culture du stade de 10 cm qui va prendre un mètre de végétation en un mois. Après, vous avez l'apparition des boutons floraux. Alors, dès l'apparition des boutons floraux, vous avez les premières fleurs. Ça va fleurir pendant un mois, six semaines. Donc ça commence à fleurir par le bas et ça monte en étage comme ça. Et dès la chute de la fleur, on a l'apparition d'une petite silique. Ça s'appelle une silique, c'est une gousse, comme une gousse de petits pois, mais beaucoup plus petite. Et ça, c'est cette silique qui va contenir les graines. Donc là, on a un stade silique au début qui est vert. On laisse venir à maturité. Et quand on arrive fin juillet, début août, là, on est au stade un peu marron. Et là, on est prêt à récolter. Alors, son taux d'humidité de récolte idéal, c'est entre 7 et 9% d'humidité. Je m'interdis de le récolter humide. Parce qu'un colza que vous récoltez humide, on est obligé de le sécher. Un colza qu'on a séché n'a plus du tout les mêmes qualités pour en faire une huile qu'un colza qu'on n'a pas séché. Parce que quand on passe dans un séchoir, on passe devant un brûleur à 90 degrés. Et ce brûleur, il a déjà dégradé une partie de l'huile qui est à l'intérieur de la graine. Donc voilà. Donc dès que c'est récolté, on va commencer à le presser. Alors, presser, qu'est-ce qu'on appelle ici? C'est de la première pression. Ça, c'est un terme qu'on va voir un peu partout, sur toutes les huiles. C'est le terme un peu qui aide un peu l'industriel à vendre son produit aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ben, tout le monde dit, ben, j'ai acheté une première pression. Mais en fait, ça ne veut absolument rien dire. Parce qu'en général, on presse qu'une fois. Donc, l'huile industrielle, ben, il va toujours le marquer, ça. Donc, les termes qui deviennent plus importants après, c'est le terme à froid. Déjà, quand vous voyez à froid, c'est déjà assez important. Et après, le terme qui sera encore plus important, ça sera vierge. Alors à froid, c'est-à-dire qu'on prend la graine, on la met dans une machine, c'est la machine mécaniquement qui va la presser sans échauffer la graine. Donc là, à froid, on va sortir que la moitié de l'huile qui est dans la graine. Une graine de colza peut contenir environ entre 50 et 60% d'huile, c'est-à-dire que dans un kilo, vous avez ça, au maximum 60 centilitres d'huile. À froid comme ça, on va en extraire 30%, hein, c'est-à-dire la moitié. L'industriel, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chauffer la graine. Comme la graine, elle est chauffée, vous avez chaud, vous transpirez. Et la graine, si elle est chauffée, pouf, elle libère tout son huile. C'est tout simple. Alors derrière, le terme que je vous disais qui est très important, c'est le terme vierge. Parce que derrière, quand l'huile est pressée, on va la laisser décanter naturellement. On va la filtrer. Et on va la mettre en bouteille. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune transformation chimique. Il n'y a rien. C'est-à-dire que c'est pressé, décanté, filtré, mis en bouteille. Il n'y a même pas de conservateur, il n'y a rien. La différence avec l'industriel, parce que bon, je fais toujours la comparaison, c'est que lui, bon, il l'aura pressé à chaud. Comme il aura extrait toute l'huile qui est dans la graine, à la fin, on extrait les mauvais éléments. Hein, dans les pressions à froid, c'est toujours en premier, c'est toujours les bons éléments qu'on extrait. Quand on presse tout, on extrait les éléments acides et tous les éléments un peu indésirables. C'est un peu comme un vin. Si vous prenez un raisin, vous le pressez à fond, vous sortez une piquette. Si vous prenez un raisin et que vous le pressez très peu, vous allez sortir un grand cru. C'est tout simple. Et bien là, c'est pareil. Alors, comme il a extrait tous ces mauvais éléments, derrière, il va devoir raffiner. C'est pour ça qu'on voit huile raffinée. Alors, raffiner, c'est un bien grand mot, c'est-à-dire faire tout un tas de procédés chimiques pour aller éliminer tous ces mauvais éléments. Et en même temps, comme on est très malin aujourd'hui, par tous ces procédés chimiques, on va aller extraire tout ce qu'on peut valoriser qui n'a pas besoin d'être forcément en quantité aussi importante dans l'huile. Style oméga 3, style vitamine, et bien d'autres produits pour tout ce qui est crème cosmétique et tout ce qui s'ensuit. Donc l'huile de colza, c'est un produit qui est très riche en oméga 3, tellement riche, comme je viens de vous dire, que l'industriel, il peut se permettre d'aller en chercher un petit peu pour refaire du business à côté. Et quand je dis un petit peu, c'est déjà un gros peu. Hein? Parce qu'aujourd'hui, vous voyez que des produits riches en oméga 3. Les oméga 3, on ne peut pas les fabriquer comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Il faut aller les chercher où ils sont. Donc pour aller les chercher où ils sont, bah c'est de quoi? C'est l'huile de colza, c'est l'huile de lin, c'est le poisson. D'ailleurs, souvent les gélules d'oméga 3 que vous prenez en pharmacie, on dit souvent ça a le goût de poisson. Donc ça, c'est tous les poissons de mer froide qu'on travaille chimiquement aussi pour aller leur extraire les oméga 3. Donc c'est les trois sources à business pour aller faire toutes ces gélules oméga 3, ces produits enrichis en oméga 3, tout ça. Donc vous vous retrouvez en fait avec une huile de colza en grande surface, industrielle, qui est déshabillée, tout simplement. Un élément qui les intéresse énormément aussi, c'est bon, c'est une huile qui est très riche en vitamine E. La vitamine E, c'est ce qui sert dans toutes les pommades de peau, si vous voulez. La vitamine E, c'est un conservateur naturel, c'est un antioxydant, c'est très bon pour la peau. Donc ben, pourquoi pas la vendre à tous ces fabricants de produits cosmétiques.
Eric a répondu également aux questions des visiteurs en donnant quelques astuces de cuisine et donne son avis de manière pertinente sur le colza bio, mais aussi sur le biocarburant à base d'huile de colza qui était envisagé à une époque. Il est contre et argumente d'autres alternatives qui pourraient être envisagées.
Avez-vous des questions? Parce que j'aime bien les questions.
La huile de colza qu'on achète, qu'on a l'habitude d'acheter dans le supermarché, et quand on achète une bonne bouteille chez un cultivateur, tout ouais. Ça, ben, on arrive pas, on a du mal à s'habituer au goût. Hein.
Au goût de la production artisanale?
Oui, oui.
Je pense que je vais vous faire changer d'avis, madame.
Oui. Est-ce qu'on peut la sauver?
Elle est trop bonne.
Alors, elle est trop bonne, on n'est pas habitué voilà. Justement à ce.
Non,
ce
non, c'est, vous avez déjà eu l'occasion de la goûter?
Ah oui, oui, oui.
Enfin,
oui,
pas
oui,
la
oui.
Vôtre. Hein.
Pas la nôtre.
Pas la vôtre, non.
Bon, déjà, ça me rassure. Déjà, je sais que je vais pouvoir.
Est-ce qu'on peut la chauffer?
Non, on ne peut pas la chauffer.
Alors, on peut casser son pain.
Alors, comme notre huile, on a laissé tous les oméga 3 qu'il y a dedans. Je vais vous dire tous les oméga 3 parce qu'on est quand même à 9%. Si vous prenez une huile d'olive, on est entre 1 et 2%. Ici, on est à 9%. Au plus vous avez une huile qui est riche en oméga 3, au moins on peut la chauffer. C'est un peu ce qui fait le point de rupture d'une huile. Si vous prenez par exemple une huile de noix, ici j'ai dit 9%, en huile de noix, on arrive à 12-13%. Hein, une huile de noix, c'est assaisonnement, point barre. Si on veut être principe, une huile de colza, son point de rupture, c'est 110 degrés. Vous allez prendre une huile de tournesol, par exemple, je pense qu'on arrive à des 200-220 degrés. Par exemple, ça, c'est une huile qui va servir éventuellement pour faire des frites, la friture. Une huile de colza, ben, on peut se permettre, à la limite, une cuisson poêle rapide. À feu doux.
À feu doux.
Après, c'est simple. Vous prenez n'importe quelle huile, vous prenez n'importe quel beurre, vous mettez dans une poêle. Quand il a fumé, oui. Il est à jeter. Oui, bon. Et quand l'huile elle a fumé, elle est à jeter. Bon. Il s'est passé un mouvement dans tous les éléments de l'huile que ça devient cancérigène. Voilà. Tout simplement. Voilà. Tout simplement. Donc tant que vous mettez une huile dans une poêle que vous ne la voyez pas fumer, eh ben, il n'y a pas de souci. C'est pour ça que je vous dis, bon, l'huile de colza en cuisson légère, ça peut aller. Aujourd'hui, par exemple, ils nous ont sorti les nouvelles friteuses, je ne sais pas si vous avez entendu parler, avec une cuillère d'huile. Mm-hmm. Ben, vous prenez la notice, on peut mettre l'huile de colza, parce qu'il n'y a aucune montée en température.
Voilà.
Tout simplement.
Merci.
On la conserve combien de temps ?
Alors ça, c'est une huile qui va conserver très longtemps. Alors, c'est pas une réponse, vous allez dire, c'est une réponse de Normand. Non, mais nous, légalement, on a été analysé en comparaison à des huiles industrielles. Alors, le test, c'est quoi ? C'est le test rancimat. C'est-à-dire, c'est un point où l'huile devient rance. Donc, c'est des tests accélérés avec... on envoie de l'oxygène au maximum pour oxyder l'huile, de la chaleur, de la lumière à fond. Et en comparaison à une huile industrielle... on a une durée de vie qui est déjà beaucoup plus longue, c'est-à-dire environ 10 à 20% plus longue qu'une huile industrielle. Pourquoi ? Justement parce que toute la vitamine E est dedans. Donc partant de là, comme les industriels, ils ont un an en durée de vie, on n'a pas voulu nous mettre plus qu'un an. Donc on nous a mis un an.
Ah non. Enfin, quand on achète un plat conduit, dans l'année...
dans l'année, en général, il est consommé.
Ouais. On peut la mélanger avec les vinaigres, toutes sortes de vinaigres.
Ça se mélange avec tout vinaigre, sans... Après, je dirais que ça dépend des goûts. Hein. C'est une huile qui se marie très bien avec un vinaigre balsamique.
Balsamique, comme je me doute.
Ouais. Surtout le blanc, qui n'est pas facile à trouver. Ça se trouve, mais...
En Italie.
Pour les voitures, l'essence.
Alors, le colza carburant. Ça, c'est comme si vous allez bientôt me faire claquer au plafond parce que moi, je suis... j'ai toujours été un anti-carburant en colza. Si vous voulez utiliser le colza comme carburant, c'est vraiment le chien qui se mord la queue. Pourquoi ? Parce qu'un hectare de colza peut produire au maximum 1500 litres d'huile. Donc, 1500 litres de carburant. Sans compter ce qu'il a coûté à produire. Quand on compte à peu près ce qu'il a coûté à produire, il va coûter environ de 800 à 1000 litres. Ça veut dire qu'il nous reste 600 à 800 litres. Là, je suis désolé, mais il va falloir beaucoup d'hectares pour rouler.
Oui, c'est ça aussi.
Quand on prend un hectare de blé peut produire 3000 litres de carburant. Ça ne peut plus s'intégrer dans du gasoil. Là, on parle d'éthanol. Donc, ça s'intègre à l'essence. Quand on parle d'un hectare de betterave, on peut produire 6000 litres d'éthanol avec un hectare de betterave. Et aujourd'hui, mais ça, il n'y a personne qui en parle, c'est vu et connu, c'était très bien étudié, mais on laisse dans les placards, dans les fonds de tiroir. Si vous mettez du miscanthus, ça s'appelle du miscanthus, c'est une herbe d'éléphant, c'est un roseau. C'est une culture pérenne. Vous l'implantez, vous pouvez la laisser 15 à 20 ans. Il n'y a pas de désherbant à lui mettre. Il n'y a pas d'engrais à lui mettre. Il n'y a aucun produit phytosanitaire à lui mettre. Vous récoltez une fois par an, vous coupez ça comme du roseau, comme de la canne à sucre. Ça repousse tout seul. Culture pérenne, ça repousse. Vous coupez ça, et ça peut produire entre 12 et 15 000 litres d'éthanol à l'hectare. Donc, c'est-à-dire 10 hectares de colza, avec un hectare de miscanthus. Là, ça commence à devenir intéressant, mais ça embête certains, il paraît.
C'est trop rentable.
C'est trop rentable.
Est-ce que vos terres sont...
C'est normal.
Non, on est en raisonné, on n'est pas en bio. Alors, je vais revenir un petit coup bio parce que j'aime bien la question. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de monde compare notre huile, nous dit « Ah, ouais, j'ai déjà goûté une huile première pression à froid, une huile vierge, je l'ai achetée en grande surface, c'était une huile bio. » Bon, d'accord. Mais alors, on n'a pas aimé du tout, elle est restée dans le placard, on n'a pas pu la consommer. J'ai dit d'accord, déjà ça nous embête parce que déjà nous on a le même produit, mais il faut arriver à le faire goûter, puis il faut dire normalement c'est pas pareil. Alors pourquoi ils ont beaucoup de problèmes en huile de colza bio ? C'est quand vous faites du colza bio, vous ne désherbez pas. Quand on désherbe pas, on récolte des mauvaises herbes. La graine de colza c'est une très petite graine.
Oui, j'ai vu ça.
Donc vous n'arrivez pas par séparation à faire la séparation des huiles, des graines de mauvaises herbes et de la graine de colza. Donc quand vous pressez, vous pressez les graines de mauvaises herbes. Et puis là-dedans, il y a des graines de mauvaises herbes qui ont vraiment des goûts lamentables. Et limite, dangereux pour la santé. Parce qu'il y a certaines mauvaises herbes qui sont toxiques. Alors c'est un peu le gros problème du colza. Moi, je veux bien faire du colza bio, mais qu'on m'explique comment on fait pour trier après les graines.
Il faut déjà avoir une terre bio depuis je ne sais pas combien d'années.
Bah ouais, mais voilà le problème un peu aujourd'hui des huiles de colza bio. Et qui à l'origine, déjà au pressage, ont des goûts altérés par le... par le mode de culture.
Oui, ça peut être ça quand on...
Voilà.
Oui, mais c'est bien.
Quand vous dites la cuisson, par exemple, si on met de l'huile dans la pâte à crêpes, il n'y a pas de souci.
Bah, ça
elle
cuit,
ça ne supporte pas beaucoup.
À combien, je ne suis pas un cuisinier dans l'âme, madame, mais alors à combien ça monte une pâte à crêpes?
Bah, chaud, hein.
Je pense que ça doit déjà monter.
Ça monte très chaud.
Moi, je le déconseille. Je le déconseille.
Un grand gaz.
Déjà, à la poêle, je le déconseille, alors qu'on peut se le permettre. La première chose que vous perdez quand vous chauffez une huile, c'est les oméga-3. D'accord. L'avantage de prendre une huile de colza, c'est de pouvoir prendre des oméga-3 en pagaille.
Sans problème, oui.
Alors, quand vous l'avez chauffé, c'est la première chose que vous avez perdue.
C'est pas la peine de le perdre.
Bon, vous avez fait avec une huile d'olive de la cuisson, bah vous perdez 1 à 2%. Mais s'il perd 9, je dis, c'est dommage. Là, je vous dirais, allez en grande surface. Alors, vous allez me dire qu'à quoi servent les oméga-3 ?
J'allais vous dire.
Les oméga-3, c'est un acide gras essentiel, ça aide au bon fonctionnement cardiovasculaire. C'est tout un ensemble.
L'huile de lin aussi, la graine de lin.
La graine de lin, parce que l'huile de lin, on n'a pas le droit.
On n'a pas le droit, mais la graine de lin, on peut.
Alors, au bon fonctionnement cardiovasculaire, en fait, ce n'est pas l'oméga-3 seul qui va participer au bon fonctionnement cardiovasculaire. C'est qu'aujourd'hui, on est toujours en manque d'oméga-3. Et pour avoir un bon fonctionnement, il faut un bon rapport entre les oméga-3 et les oméga-6. Alors, comme on est toujours en excès d'oméga-6, il y a un déséquilibre. Donc, il faut rapporter des oméga-3. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit des oméga-3 à toutes les sauces. Mais ici, c'est des sources naturelles.
Fin de la première partie de ce sujet consacré à l'huile de colza et de cette visite à la ferme de Minck Norbecourt, visite qui était organisée par le Centre social Arras Ouest à l'initiative de Fouzia, animatrice d'un atelier cuisine et diététique. Si vous désirez plus d'infos sur la ferme et ses activités, vous pouvez cliquer sur le www.fermedunorbert.fr. Et si l'atelier proposé par le Centre social Arras Ouest vous intéresse, vous pouvez prendre contact au 03 21 59 41 37.